Bonjour Jean-Claude Maillet.
Bonjour.
Emmanuel Macron va présenter dans un instant son projet de loi en Conseil des ministres, projet de loi destiné à déverrouiller l'économie française, travail du dimanche, travail de nuit, profession réglementée, réforme des prud'hommes. Le ministre de l'économie veut moderniser et faire sauter un certain nombre de verrous pour relancer la croissance et la compétitivité. Il est soutenu par une large majorité des Français sur certains aspects de son texte, si l'on en croit en tout cas les sondages. 70% sont favorables à l'ouverture des magasins le dimanche. Et 64% à la concurrence au sein des professions réglementées comme les notaires, les huissiers, les avocats. En revanche, il va devoir affronter la très forte opposition d'une partie de la gauche et d'ailleurs d'une partie du Parti Socialiste aussi, et celle des syndicats. Est-ce que Force Ouvrière va mener la bataille contre ce texte?
Ah bah écoutez, sur plusieurs des dispositions, oui, parce que c'est un magma le projet de Monsieur Macron. Ça touche à énormément de choses. C'est un peu comme les grenades à fragmentation, ça part dans tous les sens, quoi. Donc, notamment par exemple sur la question du travail du dimanche, oui, on n'est pas d'accord. Vous citez un sondage, mais ça a été régulier ce genre de choses. Il y a toujours, on a tous plus ou moins un comportement schizophrène. Hein, on voudrait bien faire ses courses le dimanche, mais on veut pas nous travailler le dimanche. D'ailleurs, pour faire ses courses dimanche, faut pas travailler le dimanche. Hein. C'est pareil, une évidence.
C'est du bon sens.
Voilà, c'est du bon sens. Ceci étant, on va là vers une banalisation du travail du dimanche. Entre des zones commerciales dont le périmètre n'est pas clairement défini, des zones touristiques et des zones touristiques internationales. Et je relève d'ailleurs que le Conseil d'État, qui ne donne qu'un avis sur le texte, sur l'ensemble du texte, dit c'est quand même pas normal qu'on n'ait pas une étude d'impact. Ça veut dire qu'on prend des décisions sans en mesurer réellement l'impact. Donc sur le travail du dimanche, oui, on a des désaccords profonds.
Mais on ne parle pas d'une généralisation du travail du dimanche. Il s'agirait de faire passer de 5 à 12 le nombre de dimanches où il serait possible de travailler dans certaines zones considérées comme touristiques ou à forte activité.
Non, ça peut être plus que ça même. Si ça peut 5, on passerait de 5 à 12, et c'est sur décision du maire le passage de 5 à 12. Alors le maire décide ou décide pas, il doit juste consulter auparavant. Mais vous avez des zones qui peuvent être ouvertes en permanence. Qu'est-ce que c'est qu'une zone commerciale? C'est quoi son périmètre? C'est quoi une zone de touristique internationale? Est-ce que ça veut dire que c'est une zone géographique par définition et que tous les magasins peuvent être ouverts dans cette zone commerciale ou cette zone touristique, quelle que soit leur taille? Est-ce que ça veut dire aussi que si tous les magasins ouvrent, faudra ouvrir des crèches ou faire travailler les gens le dimanche? Il y aura les services de sécurité. Enfin, ça veut dire qu'on va vers une extension. Alors ils le font plus de manière sectorielle, ils le font de manière géographique. Et ça n'est pas acceptable. Ça veut dire que c'est une dégradation de la situation. Il y a d'autres pays qui fonctionnent avec les commerces fermés le dimanche beaucoup plus qu'en France. Et a priori, ça marche pas si mal sur le plan économique. Vous savez, les impacts en termes d'emploi n'ont jamais été démontrés. Vous pouvez en créer si vos concurrents sont fermés. À partir de moment où tout le monde est ouvert, ça équilibre les choses et le petit commerce qui souffre.
Pour vous, le travail du dimanche, c'est le principal point de crispation.
Ah, il y en a d'autres. C'est celui dont on parle le plus.
Parce qu'effectivement, il y a plein d'autres choses.
Oui, non,
les professions
sûr.
Réglementées, par exemple. C'est une bonne chose, a priori, de faire sauter un certain nombre de verrous.
Il y a des choses qui peuvent se faire, mais là encore, nous, on ne représente pas un syndicat de salariés, les notaires ou les huissiers. Par contre, on représente les salariés qui y travaillent. Et eux ont aussi des inquiétudes aujourd'hui de savoir comment ça va évoluer demain. Mais il y a la question également des prud'hommes, par exemple. Ouais. Certaines des modifications envisagées par le projet Macron ne nous conviennent pas. Il y a les questions liées à l'épargne salariale. Alors j'ai cru comprendre que le permis de conduire se serait sorti, etc. Enfin, la privatisation du permis de conduire, c'est quand même... Alors, je sais pas si ce sera encore dans le projet ou dans un autre projet, mais on va vers une privatisation du permis de conduire. Il y a des grosses entreprises qui se mettent sur les rangs pour faire passer le permis de conduire. Tout ça, clairement, c'est quoi? C'est un projet à fond libéral au sens économique du terme. C'est pas un projet de progrès, c'est un projet libéral qui est, regardez messieurs à Bruxelles, regardez messieurs les Allemands, comme la France elle est sérieuse, hein. Elle serre les boulons sur le plan budgétaire, elle ferme des services publics, elle privatise les aéroports, et dans le même temps, qu'est-ce qu'on fait? On va libéraliser soi-disant le travail, donc ça veut dire qu'on va faire plus de flexibilité. Je pense pas que ce soit le sens du progrès.
Il est fait pour Bruxelles d'après vous, ce projet de loi?
Quand je dis pour Bruxelles.
Plus pour Bruxelles que pour le MEDEF par exemple?
Le MEDEF est d'accord avec la logique suivie au niveau européen. C'est pas pour Bruxelles en tant que tel, je rappelle que les engagements pris à Bruxelles, le gouvernement les ont acceptés. Hein. Bruxelles, la Commission ne fait que suivre les recommandations et les accords signés par les gouvernements, y compris le gouvernement français. Hein, mais dans le cadre de serrer les boulons au plan budgétaire et flexibiliser, comme on dit, comme les technocrates appellent ça, des réformes structurelles. Ça veut dire plus de libéralisme.
Le président du MEDEF a envoyé une lettre au président de la République et au Premier ministre avant-hier, dans laquelle il reprend les principales revendications défendues par les chefs chefs d'entreprise au cours la semaine dernière de leur mouvement de mobilisation. Pierre Gattaz leur demande de revenir sur quatre mesures qui, selon lui, ont envoyé un message négatif aux entreprises. La hausse continuelle des taxes diverses sur les entreprises, dit-il. La publication du décret pénibilité à la mi-octobre. Alors ça, la pénibilité, c'est vraiment la bête noire des entreprises. Il parle de dispositifs kafkaïens. La promulgation de la loi dite Hamon, et notamment la question de l'information des salariés pour les sessions d'entreprise, et enfin la durée minimale de 24 heures par semaine pour les nouveaux contrats à temps partiel. Il ne lâche rien, Pierre Gattaz.
Oui, ben il est dans son rôle de revendication, ouais. Comme quoi la lutte de classe, ça va encore dire quelque chose. Ouais. Le patronat est dans sa logique de revendication qu'il défend et qu'il continue à défendre. Il va même plus loin. Il a même des propositions pour la France en 2020. Donc il, a
il demande un agenda 2020.
Il y a un petit côté Premier ministre.
Sur la pénibilité, est-ce que vous entendez ce que disent les chefs d'entreprise quand ils disent que c'est une usine à gaz et que c'est un enfer à mettre en œuvre?
Oui, il y a un côté complexe. Mais il faut bien comprendre que cette complexité, en même temps, ça conduit à quoi, in fine? In fine, ça conduit à ce qu'un salarié, au lieu de partir à 62 ans, il pourra partir à 60 ans. C'est ça, in fine. Ça veut dire que avant, ils partaient tous à 60 ans, voire avant. Hein, donc, après, il y a des critères compliqués, etc. Mais, en même temps, il faut traiter ce dossier de la pénibilité. Vous avez des secteurs d'activité aujourd'hui, je vais prendre par exemple l'industrie agroalimentaire, vous avez des gens qui, à 50 ans, sont cassés physiquement. Hein, donc, c'est même pas 60, c'est 50 ans. Hein, donc, comment on fait à la fois le côté préventif, mais aussi le côté réparation? Mais là, le président du MEDEF ferme toutes les portes, en quelque sorte.
Mais vous êtes d'accord pour dire qu'on pourrait améliorer le dispositif?
On peut toujours améliorer.
Plus simple.
On peut toujours améliorer. Vous savez, les grands, MEDEF représente qui? Les grandes entreprises, essentiellement. Elles s'adapteront très facilement. Hein, il peut y avoir plus de problèmes, de complexité, pour les petites entreprises, mais ceci étant, on peut pas lâcher le dossier de la pénibilité. Ça n'est pas possible.
Emmanuel Macron, la semaine dernière, a parlé d'échec à propos du pacte de responsabilité. Il faisait allusion en particulier aux négociations de branches sur les contreparties, en matière d'emploi. Pour vous, en effet, aujourd'hui, on est dans une situation d'échec?
Mais depuis le début. C'est un auto-échec.
Vous n'y avez jamais cru?
Non, mais dès le 31 décembre 2013, nous n'y avons pas cru au pacte de responsabilité. Vous pouvez pas exiger des contreparties des entreprises à partir du moment où les aides que vous accordez sont des aides de caractère général. Donc quand je dis c'est un auto-échec, c'est que c'est un des pères du pacte de responsabilité, celui qui est aujourd'hui ministre de l'économie. Donc c'est un de ses bébés. Bon, bah c'est raté, bah, et ça, c'est raté sur le plan des engagements. Par contre, ce que oublie de dire, y compris Monsieur Gattaz, c'est que sur 3 ans, c'est 41 milliards d'euros d'aides diverses aux entreprises, sans contrepartie. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et ces 41 milliards d'euros sont financés par 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques et sociales. Donc d'un recul du service public, ce que nous avons expliqué, François, hier pendant la campagne dans le service public. Et d'ailleurs, moi je me félicite des résultats que nous avons obtenus.
Oui, vous êtes satisfait des résultats des élections professionnelles. La CFDT, grosso modo, stagne. La CGT régresse, reste tout de même le premier syndicat,
oui,
mais
trois, oui.
Les forces ouvrières
progressent dans les trois fonctions publiques. On en est content, c'est le travail des militantes et des militants.
Comment vous expliquez, à quoi vous devez ce succès? C'est à vous?
Non, c'est pas une question personnelle, ce serait trop facile, je veux dire. C'est le travail fait régulièrement sur le terrain par les militantes et les militants, premièrement. Vous savez, un syndicat, c'est d'abord sur le terrain. Et c'est aussi, je crois, on a mené une campagne à la fois sur la défense des conditions des fonctionnaires, mais aussi sur l'avenir du service public républicain. Parce qu'il n'y a pas que la question salariale, il y a aussi le sens du service public. Et ça, on a mené une campagne très forte là-dessus.
Le recul de la CGT peut-il s'expliquer en partie par les ennuis actuels de son secrétaire général, Thierry Lepan?
C'est difficile à dire, ce genre de choses. Je ne pense pas que, je sais pas si ça a joué ou pas. En tout cas, je pense que si ça a joué, c'est vraiment à la marge.
Pour vous, cette affaire, ça vous navre pour l'image du syndicalisme?
Ben oui, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse des amalgames. Hein. On a tout doucement tendance à dire à ce moment-là, ils sont tous pareils, tous pourris, etc. Attention, ça fait le lit de mouvements qui ne sont pas démocratiques. Maintenant, il y a des problèmes à la CGT, que la CGT règle ses problèmes, c'est son affaire.
Merci Jean-Claude Mailly.
Merci journée. À vous.